Olivier Garnier, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler avec vous de perspectives économiques. On pourrait dire aujourd'hui que nous sommes dans un environnement favorable et donc en France, ce qui concerne Emmanuel Macron, le nouveau président, il est dans cet environnement favorable ?
Alors c'est vrai que le nouveau quinquennat là, débute plutôt dans un environnement économique mondial qui est favorable. Alors on le voit déjà où tous les indicateurs au niveau mondial sont plutôt tournés au vert après une année 2016 qui avait été en demi-teinte, mais depuis la fin 2016, on voit des signes d'amélioration. Et je dirais qu'il y a derrière ça, il y a plusieurs éléments importants. Un, on a une Chine qui a redémarré, même si on peut s'interroger sur la pérennité du mouvement. Deux, on a un prix du pétrole qui n'est plus trop bas, mais qui en même temps reste suffisamment bas pour les pays consommateurs. Un dollar qui est ni trop faible ni trop fort et des taux d'intérêt qui sont sortis de la zone dangereuse pour les taux longs, des taux négatifs, mais qui restent aussi très bas. Donc je dirais que ce début de quinquennat est plutôt sous des auspices favorables.
Alors on peut parfois regarder ça d'une autre manière et se dire oui, mais la dernière fois qu'on avait parlé de cycle favorable, d'alignement des planètes, hein, c'était un terme qui était presque un terme marketing, on a pu être déçu.
Alors effectivement, parce que je crois qu'il y a 2 ans, lorsqu'on avait dit il y a un alignement des planètes avec les taux d'intérêt, taux de change, prix du pétrole, le problème, de mon point de vue, c'était que l'économie française n'était pas alignée sur les planètes. Les planètes étaient alignées, mais pas l'économie française, parce que la profitabilité des entreprises était dégradée, la compétitivité était dégradée. Et justement, les entreprises ont utilisé finalement ce contexte favorable dans un premier temps pour redresser leur taux de marge avant même de se remettre à investir et à créer des emplois. Mais maintenant, on pourrait être dans une deuxième phase, sous réserve bien sûr que le contexte reste favorable.
On a, semble-t-il, un décalage entre ce que pensent les marchés quand on voit ces indices hein, boursiers au plus haut, ces records, on a parlé de 1 000 $ pour Amazon là, à Wall Street, et puis peut-être la vision macroéconomique des choses. Comment vous justifiez peut-être ce décalage ?
Effectivement, on le voit très clairement aux États-Unis, où d'un côté, on a depuis l'élection de Trump les marchés qui ont acheté fortement les baisses d'impôts et en particulier la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et de l'autre, les prévisions des économistes qui restent relativement prudentes puisque la plupart des économistes s'attendent pour cette année et l'an prochain à une croissance qui resterait autour de 2% ou au mieux de 2,5%. Et je crois que l'écart entre les deux s'explique notamment par le fait que les boursiers, eux, ils regardent d'abord les profits des entreprises, ils regardent les dividendes, les rachats d'actions et donc les mesures un peu de baisse d'impôts sur les sociétés, de rapatriement des profits à l'étranger. Ça, c'est plutôt bon pour tout ce qui est dividendes, rachats d'actions et puis profits en tant que tels, alors que l'impact immédiat sur la croissance, lui, est moins évident, d'autant aussi qu'il y a de plus en plus de doutes sur la capacité de l'administration Trump à faire voter par le Congrès des baisses d'impôts importantes.
Est-ce qu'aujourd'hui les économistes ont acté le fait qu'on ne retrouvera pas la croissance d'avant-crise, avant la crise de 2007-2008 ?
Alors en tout cas, c'est plutôt notre scénario. Dans la mesure où je crois qu'il y a quand même des éléments de fond au-delà de l'amélioration là, que l'on évoquait précédemment, je crois qu'on est toujours dans une configuration où un peu partout dans le monde, la croissance potentielle est amoindrie, avec notamment non seulement le fléchissement des gains de productivité, mais aussi la population en âge de travailler qui est un peu partout ralentie ou même commence à diminuer. Deuxièmement, on a des taux d'endettement public et ou privé qui restent très, très élevés. Donc si vous avez moins de gens pour payer les dettes avec des dettes qui sont importantes, ça crée aussi un fardeau sur l'économie. Et puis troisièmement, au cours des années récentes, on avait pu essayer de surmonter un peu ce problème-là par des politiques monétaires ultra accommodantes. On voit bien aujourd'hui, on est aux limites en matière de politique monétaire.
Le mot de la fin, il faut toujours penser aux risques potentiels. Où sont-ils selon vous sur l'économie ? Est-ce que c'est la Chine ? Est-ce que c'est les États-Unis ?
Alors les risques, effectivement, bon, si, alors il y a une première catégorie de risques qui seraient les aléas géopolitiques. On peut penser à la Corée du Nord, on peut penser à ce qui peut se passer au Moyen-Orient. Mais même si on met de côté ces risques qui sont d'ailleurs très importants, les deux pays clés sont quand même la Chine et les États-Unis. D'une part, la Chine, un ralentissement à horizon, en tout cas au-delà des deux ans, nous paraît inévitable. Et donc toute la question de savoir, c'est est-ce que ce ralentissement sera brutal ou non. Et puis côté américain, on a quand même une économie américaine qui aujourd'hui est proche du plein emploi, qui est plutôt en fin de cycle. Et donc ça veut dire aussi, là encore, même s'il y avait des baisses d'impôts, l'effet de ces baisses d'impôts sera plutôt temporaire.
Merci Olivier Garnier d'avoir été avec nous.
Merci.